Bonjour à tous, aujourd'hui enquête sur ces groupes d'ultra-droite prêts à passer à l'action contre des musulmans ou des dirigeants politiques qu'ils jugent trop laxistes. En un an, trois de ces groupes ont été arrêtés et vous allez nous expliquer comment ils fonctionnent. Frédéric Mettezeau, bonjour.
Bonjour à tous.
Nous recevrons ensuite, comme chaque mois, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier, bonjour.
Bonjour Jacques Monin.
Avec vous, nous reparlerons notamment de l'enquête sur le coaching et puis nous recevrons Octave Bonneau, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors pour la lettre A, vous avez publié, vous, un article sur une histoire à peine croyable. Un milliardaire russe qui se prend pour le roi d'un état spatial imaginaire est aujourd'hui en conflit avec l'UNESCO.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Il y avait des menaces concrètes qui nous ont inquiétés et c'est la raison pour laquelle la DGSI a procédé à des interpellations. L'enquête est ouverte et maintenant elle va se poursuivre sous l'autorité judiciaire.
Voilà ce que vous venez d'entendre, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'exprime après le coup de filet qui a eu lieu au sein d'un groupe d'extrême droite le 6 novembre dernier, en Moselle, en Ille-et-Vilaine et en Isère. Cette opération faisait suite à deux autres qui avaient lieu, elles, en 2017. Alors, à la cellule investigation de Radio France, on a voulu comprendre qui sont ces personnes qui chercheraient à passer à l'action. Sont-elles vraiment organisées et dangereuses? Mais pour commencer, le plus simple, c'est peut-être de se pencher sur celui de ces groupes qui a l'air le plus important et le plus actif, Frédéric Mettezeau. Ce groupe, on l'appelle AFO. Alors, AFO, c'est quoi?
AFO, ça veut dire Action des Forces Opérationnelles. Et derrière ça, il y a 10 individus qui ont été interpellés le 5 juin dernier en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Corse, et mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes. 32 à 69 ans, 9 hommes et une femme. Pendant plusieurs mois, ils se réunissent régulièrement. Ils ont un site internet aujourd'hui fermé où l'on pouvait lire des messages anti-islam, anti-migrants et anti-gouvernement. On trouvait aussi sur ce site des fiches pratiques pour se constituer une trousse de premiers secours, pour savoir réagir en cas d'attaque terroriste ou bien en cas d'arrestation.
Et à l'intérieur de ce groupe, chacun avait son surnom.
Oui, selon le dossier judiciaire que nous avons pu consulter, le chef présumé du groupe se faisait appeler Richelieu, Ninon de l'Enclos et sa compagne. Il y a Garbeau, Souvigny, Attila, Tommy. On se désigne aussi, Jacques, par des couleurs. Il y a les blancs, qui sont les simples sympathisants, les gris chargés de la formation et de la logistique, et les noirs pour le passage à l'action, car certains avaient clairement envisagé des actes terroristes.
C'est effectivement ce qui a été expliqué lors des différents sujets qui ont été traités récemment dans l'actualité. Maintenant, pour aller plus loin sur ces groupes, Frédéric, ils représentent quoi précisément?
Selon les autorités et les chercheurs, ils seraient un millier à constituer un noyau dur entouré de 1000 à 2000 sympathisants. Cette ultra-droite est beaucoup plus belliqueuse depuis les attentats islamistes commis à partir de 2015. Et selon Laurent Nunez, secrétaire d'État à l'Intérieur et ancien directeur général de la DGSI, il recruterait notamment chez d'anciens des forces publiques.
On voit apparaître maintenant un certain nombre de structures qui se constituent sous forme de sorte de milices en prévision de ce que serait le grand soir de la menace islamiste sur notre territoire, considérant d'ailleurs que les pouvoirs publics finalement n'en font pas assez pour lutter contre le terrorisme. On a des gens qui proviennent de tous les milieux, de toutes les catégories socio-professionnelles. Et effectivement, on a quelques retraités des forces régaliennes, police, gendarmerie. Alors, on ne constate pas de phénomène de membres actifs, c'est-à-dire en fonction de ces différentes unités, qui soient membres de ces groupuscules. Mais ça dénote aussi sans doute une plus grande professionnalisation, une plus grande capacité dans l'organisation.
Oui, qui dit plus grande capacité dans l'organisation, dit aussi plus grande capacité dans le passage à l'acte.
Exactement. D'ailleurs, au sein d'AFO, on trouve un policier à la retraite, le chef présumé, et deux anciens militaires, dont un qui a servi en Afghanistan et qui est toujours en détention provisoire. Pour le chercheur Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès, c'est bien là que les groupes d'ultra-droite recrutent.
Est apparu il y a quelques années une sous-catégorie qui est le militaire qui s'est trouvé engagé sur un théâtre d'opération extérieur, donc en OPEX, et qui... Revenu de Bosnie, revenu d'Afghanistan, revenu du Sahel, a quand même, contre l'islam en général, un certain nombre de préventions, voire de comptes à régler. Ils reviennent avec un savoir-faire.
Oui, un savoir-faire en matière d'armes à feu ou d'explosifs. D'ailleurs, selon l'enquête sur AFO, deux membres du groupe, dont l'ancien d'Afghanistan, ont acheté des armes à la Bourse aux armes de Ciney en Belgique. C'est l'une des plus grandes en Europe. Et ils ont même fabriqué des explosifs.
Ils en font quoi de ces armes et de ces explosifs?
Eh bien, ils apprennent à s'en servir. Plusieurs membres d'AFO ont testé des grenades artisanales en forêt, à Chablis en Bourgogne ou à Saint-Amand-Montrond dans le Cher. C'est ce qui avait convaincu la DGSI de passer à l'action. Pour Laurent Luniez, on avait dépassé le stade des messages menaçants sur Internet.
Ces groupuscules s'entraînent, s'organisent, se préparent et pour certains d'entre eux, ont envisagé très clairement le passage à l'action violente. Ils s'entraînent sur le territoire national, même si certains d'entre eux peuvent avoir quelques connexions à l'étranger, c'est très très marginal. Hein. On a vraiment des entraînements qui se déroulent sur le territoire national. Et au travers d'entraînements qui tournent autour du survivalisme, ça leur donne l'occasion d'entraînements, mais qui parfois sont effectués avec des armes. Et puis pour certains groupes, il faut le dire, hein, ce sont même des explosifs qui ont été testés.
Ah oui, des explosifs dans le cadre d'activités de survivalisme. Alors là, Frédéric, il faut expliquer, c'est quoi le survivalisme?
Le survivalisme, à l'origine, ça vient des États-Unis. C'est un mélange d'écologie radicale et de techniques de survie dans la nature, soit en cas de catastrophe nucléaire ou chimique, soit en cas d'attentat ou de guerre civile. Mais dans le cas de l'ultra-droite, cela se double d'entraînements paramilitaires et même de la constitution d'îlots blancs, des hameaux, oui, des hameaux pour, je cite, les Français de souche. Stéphane François du laboratoire Groupe Société Religion Laïcité du CNRS m'a détaillé la feuille de route qui permet de constituer des îlots blancs.
Déjà, acheter des terres à un corps de ferme. Deux, adapter, équiper ce corps de ferme, souvent des ruines, de façon à qu'elle soit indépendante, autonome. Donc, panneaux solaires, éoliennes pour avoir l'électricité, de l'eau chaude, une source, des pompes. Après, des réserves, évidemment, de nourriture. De préférence des conserves, des choses qui se gardent très longtemps, des terres pour un jardin, des animaux. Ça, c'est le côté, on va dire, gentil. Après, il y a achat d'armes et constitution d'un stock d'armes et d'une armurerie. Parce que si on fait de la résistance, elle n'est pas que passive. Il faut pouvoir se défendre physiquement. Et le but est donc de devenir totalement autonome pour créer cet îlot. On est quasiment dans un univers à la Mad Max.
Et des îlots blancs, Jacques, il en existe déjà en Bretagne et en Bourgogne, et des identitaires souhaiteraient en installer en Picardie et en Champagne.
Oui, univers à la Mad Max, c'est plutôt inquiétant ce que vous nous racontez. Mais ça voudrait dire que les groupes d'ultra-droite d'aujourd'hui ne seraient plus les mêmes ou plus tout à fait les mêmes que ceux qu'on connaissait jusqu'à présent.
Oui, et en tout cas, ils évoluent. Un exemple, tiens, le phénomène skinhead et ce qu'on appelait les ratonnades, les tristes ratonnades, ça faisait partie de leur univers dans les années 70-80, et bien tous cela a reflué au profit d'autres actions, explique encore Stéphane François.
Depuis les années 90, les théoriciens de l'extrême droite dure s'aperçoivent que l'action violente militante ne marche plus. Ils l'ont abandonnée pour la provocation inspirée des happenings de Greenpeace, c'est-à-dire occupation de bâtiments, déploiement de banderoles, ce genre de choses. Mais parmi ces gens-là, il y a des personnes qui disent, ben ouais, mais en fait, c'est trop mou, déployer des banderoles, faire des sittings sur les ponts de Calais, c'est bien gentil, mais on va se faire envahir. Et donc, il y a des éléments qui, eux, se radicalisent de plus en plus et qui veulent passer à l'acte.
Et d'où donc les arrestations qu'on a connues ces derniers temps? Parce qu'il faut quand même rappeler, Frédéric, que des cibles avaient été désignées.
Oui, le réseau démantelé début novembre projetait d'assassiner Emmanuel Macron à l'arme blanche lors de son itinérance mémorielle. Dans le cas d'AFO, là, il s'agissait de tuer 200 imams radicalisés ou le rappeur Medine, accusé de sympathie djihadiste, ou encore d'empoisonner de la nourriture halal dans les supermarchés. C'est ce qui ressort du dossier, sourire. Réserve, bien sûr, de nouveaux éléments.
Bon, mais là, il faut qu'on aille un peu plus loin dans le pourquoi, Frédéric. On a compris donc que cette mouvance menace des musulmans, mais pourquoi de cette manière-là et pourquoi aujourd'hui?
Parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, la France est menacée et que les pouvoirs publics n'agissent pas assez, explique encore le chercheur Jean-Yves Camus.
Ils considèrent qu'en fait, on est dans un état de guerre civile larvée. C'est-à-dire que depuis les attentats commis par les islamistes, il y a selon eux en France quelque chose de l'ordre de la sécession, de l'ordre de l'occupation, de l'ordre de la guerre intérieure. Entre d'un côté une population dite de souche et une population musulmane pour eux, les musulmans sont une sorte de cinquième colonne qui subvertit la France de l'intérieur.
Et leur mission, en quelque sorte, ce serait donc de chasser cette cinquième colonne ?
C'est ça, et d'ailleurs Stéphane François n'hésite pas à comparer leur combat à une croisade.
Les croisades, oui, c'est une référence qui revient, qui est mise en avant par les identitaires. L'extrême droite identitaire d'aujourd'hui se considère comme des chevaliers, de nouveaux croisés qui vont se battre, défendre l'Occident.
Et dans cet ordre d'idées, on peut citer quelques-unes de leurs références intellectuelles. Il y a ce magazine « Réfléchir et agir » qui diffuse 5000 exemplaires par numéro. Il y a encore des penseurs identitaires comme Philippe Vardon ou Guillaume Fay. Et aussi des auteurs plus connus du grand public comme Éric Zemmour, Laurent Oberton ou Renaud Camus. Camus, le théoricien du grand remplacement.
Alors ça, c'est pour la France. Maintenant, si on regarde vers l'étranger, là, leur référence, ce serait quoi ?
Alors là, ils trouvent leur « héros » entre guillemets du côté de certains dirigeants considérés comme les meilleurs résistants à l'islamisme, notamment Bachar el-Assad, raconte encore Stéphane François.
Il ne faut pas oublier que le père Hafez el-Assad, au début des années 80, a rasé une ville à coups de gaz chimique qui était habitée par des sunnites, plutôt influencés par les frères musulmans. Dans l'imaginaire, c'est resté. Premier point. Deuxième point, les régimes illibéraux européens. La Russie de Poutine, oui, il y a un soutien fort depuis très longtemps. C'est très fréquent qu'il y ait des militants d'extrême droite qui fassent un voyage en Russie. Orban et la Hongrie est aussi un exemple. Il y a des militants d'extrême droite qui s'installent de plus en plus en Hongrie.
Ouais, donc ces réseaux, ils ont des filiations, une idéologie, des références. Maintenant, Frédéric, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'ils sont vraiment dangereux, ces groupes ?
Réponse, oui et non. Au sein des trois réseaux démantelés depuis juin 2017, il y a bien eu des propos en réunion ou sur Internet, propos très virulents. Il y a bien eu ces entraînements dont on vient de parler, entraînements paramilitaires, ces achats d'armes, ces tentatives de fabrication d'explosifs. Mais chez AFO, il y a aussi des lacunes. Tenez Jacques, comment empoisonner de la nourriture halal emballée dans des plastiques ou dans des boîtes ? Comment fabriquer des explosifs efficaces quand, c'est ce que nous dit le dossier, quand les chimistes d'AFO ont du mal à trouver les bons produits dans les magasins de bricolage, ou comment être indétectable quand on n'utilise pas de messagerie cryptée pour échanger les informations les plus sensibles. Bref, pour Stéphane François, il y a encore un manque de professionnalisme.
Pour l'instant, on a plutôt affaire à des groupes, on va dire, plutôt amateurs. Là, si on peut les arrêter quand même assez en amont, c'est que les groupes sont assez exubérants. Ils s'expriment, ils sont suivis par les services de la DGSI et heureusement pour nous, ils se font arrêter avant de passer à l'acte. Ça n'empêche pas que paradoxalement et à côté, ils sont dangereux. Il y a une radicalisation croissante de l'extrême droite. À partir du moment où la personne décide de cacher sa volonté d'agir à tout le monde et est très prudente sur les réseaux sociaux, elle est impossible à détecter.
Et voilà pourquoi les services de renseignement ne négligent aucun scénario. C'est ce que m'a encore expliqué le secrétaire d'État Laurent Nunez dans son bureau au ministère de l'Intérieur.
Nous craignons les deux choses, c'est-à-dire à la fois l'action violente préparée par le groupe structuré, et puis l'individu qui, appartenant à ce groupe, survolté parce qu'il peut y entendre, décide de passer à l'action seul. Un scénario à la Breivik. Je rappelle d'ailleurs que pour l'un des trois groupes démantelés, ce qui avait attiré l'attention des services de renseignement, pour le premier groupe, hein, celui qui a été démantelé au cours de l'été 2017, c'était précisément l'adoration que portait le responsable du groupe à Breivik. Et donc c'est ce qui avait attiré notre attention.
Oui, Anders Breivik, qui on le rappelle, était ce militant norvégien d'extrême droite qui avait tué à lui seul 77 personnes en 2011.
Oui, et en ce qui concerne AFO, à la lecture du dossier, on apprend que deux membres du groupe, toujours incarcérés, trouvaient leur comparse trop mou, trop léger, pas assez déterminé. Ils envisageaient donc à leur tour de créer une structure encore plus radicale.
Et donc de commettre ce que les services français finalement redoutent depuis plusieurs années.
Ouais, et à ce propos, c'est frappant de réentendre Patrick Calvar au Parlement, ce qu'il disait le 10 février 2017 devant la commission d'enquête sur les attentats du 13 novembre. Le directeur général de la DGSI à l'époque parle d'un risque de confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman.
Il y a des montées de violence au sein de différentes communautés qui pourraient demain nous confronter à des situations complexes entre la communauté musulmane, les islamistes et certains extrémistes qui voudraient en découdre. Et nous ne sommes pas à l'abri d'une action violente aujourd'hui sur notre territoire qui ferait monter un degré de tension entre des communautés. Nous avons pour obligation de nous préparer à faire face à cette situation si demain elle devait se présenter.
Oui, si elle devait se présenter, et il semble donc qu'elle se présente aujourd'hui. Mais pour prendre un peu de hauteur, Frédéric, au final, ces groupes d'ultra-droite, est-ce qu'ils ne font pas le jeu de Daesh ?
Effectivement, c'est toute la question. En attisant un conflit des civilisations, ces groupes d'ultra-droite proposent une vision binaire, clivante, manichéenne de la France. Et ça correspond à la vision de Daesh, nous dit Jean-Yves Camus.
L'optique de la confrontation ethnique généralisée est quelque chose que les islamistes radicaux qui ont essayé un peu de théoriser la suite de leur combat ont dans leur horizon. L'idée, c'est qu'on arrive à une situation où, des deux côtés, l'individu soit ramené à son appartenance, j'allais dire clanique, ethnique, et soit sommé de choisir. Donc vous êtes musulman, vous rejoignez vos, entre guillemets, frères, et le reste de la population, les fameux Français, entre guillemets, de souche dont on parle, verraient à leur tour, dans ce schéma-là, l'ensemble de la population culturellement musulmane comme une entité homogène et concevraient la nécessité soit d'expulser, soit de passer à des formes d'action plus violentes.
Des formes d'action déjouées pour l'instant. En attendant, 23 personnes de 3 réseaux d'ultra-droite sont mises en examen. 9 sont sous les verrous dans l'attente de leur éventuel procès.
Bien, merci Frédéric Mettezeau pour cette plongée au cœur de ces groupuscules de l'ultra-droite. Alors je précise qu'on peut réécouter votre enquête sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter. Vous pouvez également la commenter sur notre site, mais aussi sur la page Facebook de Secrets d'Info ou sur Twitter, Investigation RF.
Secret d'info sur France Inter.
Alors, comme chaque mois maintenant, nous accueillons la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Rebonjour, Emmanuelle.
Bonjour, Jacques.
Alors, Emmanuelle, quelles sont les critiques que les auditeurs nous ont adressées ce mois-ci sur nos enquêtes ou sur une enquête ?
Alors, essentiellement, l'enquête, vous abordiez la question du coaching. Et à travers ce reportage, donc, en évoquant une minorité de coachs, c'est toute une profession qui se sent mise en cause. J'indique d'ailleurs que l'essentiel des mails reçus proviennent de personnes exerçant cette activité. Martine nous écrit « L'intention positive de dénoncer les abus et protéger les auditeurs de pratiques douteuses a malheureusement tourné à dénoncer une profession honorable. Jean-Christophe estime que le sujet a été traité honteusement à charge. Stéphane, lui, s'interroge. Comment vos journalistes peuvent ainsi détruire une profession sans même faire intervenir un professionnel afin qu'il défende son point de vue ? Où est l'équité ? Vous n'avez pas le droit, à partir d'exemples extrêmes et isolés, de procéder à une généralisation totalement abusive. Vous n'avez pas le droit de minimiser, voire dénigrer des associations sérieuses sans prendre la peine de leur donner la parole ou, à tout le moins, de les contacter auparavant pour avoir une vision plus juste. On a reçu beaucoup de mails.
Bon, de coach, hein, si j'ai bien compris,
absolument.
Plus que d'auditeur. Alors, il y a déjà à travers ça, visiblement, une tendance générale, mais qu'on a retrouvée déjà dans différentes enquêtes qu'on a pu mettre à l'antenne, c'est que dès que vous vous investiguez sur les dérives d'une profession, c'est-à-dire effectivement une minorité de comportements qui peuvent poser problème, c'est l'ensemble de la profession qui se sent touchée, qui se sent atteinte. On l'avait déjà constaté lorsqu'on avait parlé des dérives de la formation professionnelle, où des gens qui sont de parfaits formateurs tout à fait compétents, nous avait écrit en nous disant « c'est scandaleux, vous jetez l'opprobre sur notre profession ». Mais je voudrais élargir un peu le sujet. Alors évidemment, ça n'a rien à voir. Je vais parler de pédophilie dans l'église. Rien à voir avec les coachs.
Ah, mais là, on va encore avoir des mails, Jacques Monin.
Je suis désolé. Non, mais c'est sur le principe. Quand vous dénoncez la pédophilie dans l'église, c'est une dérive. On pourrait imaginer que l'ensemble des prêtres se sentent éclaboussés. Et que pour ne pas éclabousser l'ensemble des prêtres, on ne devrait pas parler de pédophilie dans l'église. Je veux dire, non, il y a un moment où quand on identifie un problème, je pense que la bonne attitude, c'est d'accepter de regarder le problème en face, de considérer qu'effectivement il n'est pas majoritaire, mais en tout cas, essayons de regarder là où il y a un dysfonctionnement, parce qu'effectivement, le travail du journaliste, c'est de mettre le doigt sur des dysfonctionnements. Alors après, on nous parle de généralisation, d'enquête à charge, et donc un de vos interlocuteurs parlait de détruire une profession. Oui. Alors moi, je vais quand même les inviter à réécouter l'enquête. Pardon, mais au début de l'enquête, on a entendu justement un coach qui nous explique ce qu'est le coaching. Marjolaine Corr, qui est là dans ce studio, nous explique que le coaching, c'est une profession utile. On entend une personne, un manager, qui lui-même avait des difficultés à exercer sa nouvelle fonction et a été aidé par un coach. Et on explique que tout ça, donc, a un sens, a un intérêt. Et à la fin de l'émission, on conclut en expliquant justement, attention, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ce que cette enquête visait, c'était de dénoncer un travers particulier, mais surtout pas de stigmatiser une profession. Et nous l'avons dit. Quant à la parole, vous n'avez pas donné de la parole à des coachs professionnels. Là, je suis désolé aussi, mais c'est juste faux, puisqu'on a entendu, je viens de le dire, ce coach professionnel. Et on a entendu deux fois, au cours de l'enquête, Michel Canellas, qui est la présidente de la plus grosse association de coaching, ICF. Donc là, le reproche, encore une fois, me semble injustifié. Je voudrais quand même donner une information à cette occasion, c'est que depuis cette enquête, la Miviludes, qui reçoit quand même, on le rappelle, chaque année entre 10 et 20% de signalements qui sont liés à des dérives liées au coaching, la Miviludes nous a écrit pour nous dire que cette émission avait libéré la parole de beaucoup de gens et que depuis, justement, ils recevaient encore plus de signalements de personnes qui se disaient victimes de ces dérives du coaching. Donc je pense qu'il faut effectivement faire la part des choses, mais si cette profession s'est sentie insulté. J'en suis désolé, mais c'était vraiment pas le propos.
Le second reproche à l'égard de ce reportage, Jacques Monin, c'est d'avoir donné des informations inexactes. Patricia juge les propos caricaturaux et mensongers. Elle écrit « Notre profession est organisée, structurée, validée par des organisations syndicales professionnelles, des écoles professionnelles et des universités qui proposent des programmes diplômants reconnus par l'État. Gabriel, lui, constate le reportage pas assez documenté est une insulte pour mon métier. » Et donc, tous considèrent...
Donc encore un témoignage de coach.
Voilà, et que c'est un sujet à charge avec des informations non vérifiées. Et là encore, que répondez-vous aux auditeurs ?
Alors là, sur ce domaine-là, je vais leur donner raison. Et je crois que quand on fait une erreur, il faut aussi savoir le reconnaître. Je pense qu'on a péché dans la réalisation de notre enquête parce qu'on n'a pas séparé deux choses qui sont assez différentes. On n'a pas séparé assez ce qui est de l'ordre du coaching de développement personnel, qui là pour le coup est une véritable nébuleuse, du coaching en entreprise auprès de managers. Et là, pour le coup, effectivement, il y a des personnes qui sont parfaitement formées avec des formations qui sont des formations reconnues, des formations universitaires. Alors, c'est peut-être l'occasion justement de préciser les choses en séparant bien ces deux milieux et en expliquant qu'effectivement, Marjolaine Corr, et alors là, ça va être intéressant de vous entendre, il y a effectivement une partie de cette profession qui s'est structurée, qui a fait un travail et qui délivre, d'ailleurs, on le disait dans l'enquête, des certifications, mais il y a des formations qui sont des formations valides pour cela.
Oui, il y a des formations. Alors, bien sûr, il faut rappeler qu'il y a trois associations qui s'occupent et qui ont vraiment à cœur d'organiser la profession et d'éviter toute dérive. Et elles le disent en tant que telles. Elles sont là aussi pour ça. Et elles ont mis en place des certifications. Il y a un registre national des certifications professionnelles dans lequel on trouve des formations qui sont privées et qui sont certifiées et inscrites dans ce registre. Et donc des formations universitaires accessibles pour la majorité en formation continue et qui se font sur une durée d'un an que l'on retrouve dans plusieurs universités de France.
Alors, je pense que les auditeurs apprécieront votre mea culpa et notamment lors de votre réponse à ma deuxième question. En revanche, je ne suis pas sûre qu'ils apprécient complètement votre parallèle comparatif avec l'Église et les affaires.
Alors,
de pédophilie.
Ouais, non, mais attention, il faut être très très clair. J'ai dit qu'il n'y avait aucun rapport entre le contenu de l'information. Simplement, il y a un rapport dans le principe. C'est que quand vous parlez d'un phénomène qu'on peut considérer comme marginal, tous ceux qui font partie de cette mouvance, mais qui sont des gens tout à fait respectables, se sentent atteints. Mon propos, c'était juste de dire, alors qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'en parle pas de cette minorité sous prétexte que la majorité peut se sentir éclaboussée. Voilà, c'est un principe que je mets en évidence. Et je dis que le même type de raisonnement s'applique effectivement, là pour le coup, dans notre enquête sur le coaching. Notre propos était de dénoncer la dérive de cette minorité. Ce n'était absolument pas de dénoncer une profession dans son ensemble.
Donc, les auditeurs auront compris que la comparaison n'est qu'un principe de raisonnement que vous vouliez leur donner à entendre.
Voilà, et comparaison n'est pas raison, mais j'espère qu'en tout cas, nous aurons été entendus.
Merci Jacques Monin.
Merci Emmanuel, on se retrouve le 5 janvier pour votre prochaine intervention. Mais restez avec nous puisque dans quelques instants, on va parler de la folle histoire du bras de fer entre l'UNESCO dirigé par la Française Audrey Azoulay et un milliardaire russe qui se prend... Ah, ça vous donne envie d'écouter. Pour le roi d'un état spatial.
Wanna give you my heart. Wanna tell you my story. Gonna take it to another level, you and me. Wanna give you my word. Let me give you my promise.
make it happen, you can guarantee. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, let me enter your light. Wanna show you my passion. We can make each other happy if we get it right. Hand in hand, walking through life and making our plans. Hand in hand, taking our time and making a stand. We can make this dream come true, only if we want to. We can make this dream come true, only when we understand everything in life is planned. Can we make this dream come true?
Bon, pas besoin de vous le présenter, c'était Hand in Hand de Paul McCartney, extrait de son dernier album, Egypt Station.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Alors nous recevons maintenant Octave Bonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à la lettre A et vous venez de publier un article sur une histoire absolument hallucinante. C'est l'histoire d'un marchand d'armes russe qui se prend pour le roi d'un état spatial imaginaire. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est qu'il a trouvé la caution, et c'est pas rien, de l'UNESCO. Alors d'abord, présentez-nous l'acteur central de cette affaire pour qu'on comprenne. Igor Ashurbeli, c'est son nom. C'est qui précisément ?
Alors, au départ, c'est un Russe qui est né à Bakou, en Azerbaïdjan, qui a passé sa jeunesse là-bas. Et en fait, il va faire sa carrière tout au long des années 2000 et 2010 dans l'un des plus gros conglomérats de défense russe qu'il va diriger. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est très connu des milieux de la défense russe et des milieux de l'armement, un acteur très important. Sa holding a environ 1 milliard d'euros d'actifs, donc c'est quelqu'un qui a une énorme fortune, qui est en fait un oligarque russe des milieux de la défense, qui est bien connu en Russie, mais qui aujourd'hui a un projet tout à fait original de colonisation de la Lune.
Ouais, alors on va en parler. Il a toujours été fasciné par l'espace, puisqu'en 2004 déjà, il a lancé un groupe de réflexion, alors qu'il était consultant pour l'ONU, c'est pas rien, qui proposait la création d'une arme mondiale pour se défendre contre les missiles, ou y compris d'ailleurs les menaces naturelles. Je sais pas ce que c'est, les menaces naturelles.
Exactement, oui. Il avait ce groupe de réflexion qui a été reconnu par les Nations Unies, donc il avait déjà cette obsession d'avoir une reconnaissance internationale. Il a eu aussi une médaille, pour le coup, de l'UNESCO sur ses travaux en matière de nanotechnologie. Et lui, d'ailleurs, a un point de vue tout à fait tranché et construit sur la question.
Alors, construit sur la question peut-être, cependant, en octobre 2016, il crée un pseudo-état spatial. Je ne sais pas si c'est très construit, ça, mais enfin, c'est un état virtuel. Alors, racontez-nous ça.
Alors, son idée, c'est de proposer à des résidents, qui sont quand même aujourd'hui 270 000, même s'il suffit de s'inscrire sur le site internet et à terme de payer une cotisation, c'est tout simplement d'avoir pour objectif de coloniser la Lune dans les prochaines années. Il a déjà fait quelques pas en ce sens, ou des petits pas on peut dire, puisqu'il a commencé par lancer un petit satellite en 2017, satellite qui a été propulsé d'une base américaine. Et début de l'année 2018, il a commencé à construire un prototype d'État qui, selon lui, serait le modèle à suivre pour créer une nouvelle nation spatiale.
Oui, mais alors ça va plus loin que ça, parce qu'il a déjà créé ce qu'il appelle un État spatial, qu'il a baptisé Asgardia, ça fait un peu film de Marvel, et donc il considère que ses 270 000 adhérents sont déjà les résidents de cet État qui n'existe pas, en fait.
Complètement, et il s'est déjà doté d'une constitution. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir la nature du régime de ce pseudo-État d'Asgardien. Les résidents ont certes le droit de vote, ils se sont dotés d'une constitution, ils vont se doter de juges et de tout ce qui peut légitimer
des résidents la création qui sont n'importe où sur la planète.
Oui, alors ils sont 270 000 sur la planète, il y en a beaucoup en Turquie, en France, il y a à peu près 5 000 résidents asgardiens qui ont fait la démarche de rejoindre ce milliardaire russe.
Alors j'entends ce que sont en train de se dire nos auditeurs, mais pourquoi ils nous racontent ce truc aussi délirant? C'est vrai, on pourrait en sourire, sauf que là où ça devient très sérieux, c'est qu'en juin 2017, l'UNESCO va nouer un partenariat avec la société qui représente ce pseudo-État spatial.
Exactement, et c'est là toute l'ambiguïté du statut de ce pseudo-État, c'est que Igor Achouberli est évidemment assez malin pour signer ce partenariat avec son ONG, donc l'Asgardia Non-Governmental Research Society, qui va signer
qui
le contrat...
Qui est basé à Vienne.
Exactement, qui est basé à Vienne, qui va signer le contrat avec l'UNESCO en juin 2017. Sauf que dès la signature du contrat, il va communiquer auprès des résidents asgardiens et à peu près partout dans le monde. On trouve même dans la presse française des articles qui disent que l'État d'Asgardia est reconnu par l'UNESCO. Il va communiquer sur le fait qu'il s'agit bien d'un partenariat entre l'UNESCO et l'État spatial d'Asgardia.
Alors que dans le détail, c'est pas exactement ça. C'est l'UNESCO finance en fait une médaille qui serait remise chaque année à des personnes méritantes dans le domaine de la recherche spatiale. C'est pas tout à fait la même chose.
Exactement. En septembre 2017, vous avez une première remise de médaille dans les bureaux de l'UNESCO qui récompense trois cosmonautes. Il y a le premier cosmonaute cubain,
la Arnaldo première femme, Mendez.
Exactement, la première femme cosmonaute russe.
Valentina Tereshkova. J'espère que j'écorche pas son nom.
Et l'État d'Asgardia, ou en tout cas l'ONG Asgardia, c'est ce que croit l'UNESCO, finance à hauteur de 260 000 euros la remise de cette médaille. Mais peu à peu, au fur et à mesure que ce milliardaire russe avance sur ce projet de création de l'État, il va communiquer uniquement sur le partenariat entre l'UNESCO et l'État d'Asgardia spatial, qui serait donc reconnu par une instance onusienne.
Oui, c'est ça. Lui, il considère qu'effectivement, ça a valeur de reconnaissance. Ça donne des ailes à Igor Achouberli, puisque en juin 2018, il s'autoproclame roi du royaume d'Asgardia et il demande maintenant la reconnaissance de son État par l'ONU.
Il se proclame roi d'Asgardia et même père fondateur de l'État d'Asgardia et revendique le 25 juin 2018 la reconnaissance des Nations Unies. Alors, il a un plan qui est quand même tout à fait crédible, puisque à terme, il pense obtenir la reconnaissance bilatérale de 5 ou 6 États, et c'est peut-être pas si compliqué d'obtenir la reconnaissance de quelques îles dans les Caraïbes ou de micro-États un peu partout dans le monde, pour ensuite faire valoir son entrée aux Nations Unies.
Enfin, de là, obtenir la reconnaissance, on en est loin quand même. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'à la tête de l'UNESCO, va y avoir un changement. C'est Audrey Azoulay, donc la Française, qui va prendre la direction en novembre, à l'automne 2017. Et du coup, elle va se dire, il y a un truc qui ne va pas dans cette histoire. Et elle va rompre le partenariat.
Exactement, il y a un audit qui est mené sur le précédent mandat d'Irina Bokova et juste avant la date de la remise de médaille, donc Audrey Azoulay va envoyer une lettre à Igor Achouberli pour lui signifier la fin de ce partenariat, ce qui suscite d'ailleurs un petit litige juridique puisque Igor Achouberli demande justement le remboursement des frais de sponsoring qu'il a engagé.
Il considère qu'il y a un préjudice, il demande combien, 78 000 euros.
Voilà, il demande à peu près cette somme à l'UNESCO.
Mais du coup, aujourd'hui, l'UNESCO est en train de regarder s'il n'y a pas d'autres partenariats douteux de ce type.
Alors, à la demande des États, des représentants de certains États, tous les contrats de sponsoring sont passés au peigne fin. Ce qui est sûr, c'est que Igor Achoubeli ne fait pas grand cas de cette histoire.
Il continue
évidemment à réclamer la reconnaissance internationale. Donc,
il lâche pas l'affaire.
Des liens diplomatiques. Et c'est aussi un moyen pour lui de mobiliser sa communauté de résidents et de gagner des financements, puisque l'État d'Asgardia risque d'avoir du mal à long terme à s'autofinancer.
Assez hallucinant quand même tout ça. Merci Octave Bonneau. Alors je précise qu'on peut retrouver les dernières infos sur cette affaire sur la lettre A, qui est un site payant, je le précise, ou bien sur le site russe de la BBC. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer pour sa précieuse collaboration. Merci à Hélène Biziot qui réalisait cette émission. Merci à Théo Gomard et à Pierre Faucillon qui étaient à la technique aujourd'hui. Merci aussi à Jean-Baptiste Audibert qui lui assurait notre programmation musicale. Dans quelques instants, CO2 Mon Amour, il y sera notamment question d'une hydrolienne sur la Garonne et d'érosion du littoral. Quant à moi, au nom de la cellule Investigation de Radio France, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end.